9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour à tous. Contre le Covid, la course au vaccin ou la guerre des vaccins? Ma première invitée, Marie-Paul Kieny, est l'une des grandes expertes mondiales en vaccination, en charge à la direction de l'OMS des deux grandes pandémies, épidémie, H1N1 et Ebola. Elle fait partie aujourd'hui du CAIR, l'un des deux comités scientifiques qui conseillent le gouvernement. Cette semaine encore, le retour des écoliers, des enfants qui semblent avoir mieux vécu la crise que les adultes. En classe, retour partiel, prudent et progressif après 2 mois d'arrêt, mais aussi d'usage intensif du numérique. Pas forcément une mauvaise chose pour le président du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui voudrait saisir l'occasion pour aller vers de nouveaux modes d'apprentissage. Stanislas Dehaene sera avec nous. Enfin, la foire aux idées pour le monde d'après, l'espoir ou l'illusion que demain naîtra un monde meilleur. Le virus récupéré par toutes les idéologies, la science gangrénée par les théories du complot. Vaste sujet de réflexion empoigné par une jeune professeure de philosophie dans un texte brillant. Marilyn Maezo, auteure des « Lents demain qui chantent », viendra en discuter avec nous.
Europe 1, c'est arrivé cette semaine.
Bonjour Marie-Paul Kieny.
Bonjour Patrick Cohen.
Directrice de recherche INSERM, ancienne directrice adjointe de l'OMS et membre du CAIR, le comité analyse, recherche et expertise installé par Emmanuel Macron. La course au vaccin, 140 programmes lancés à travers le monde, une dizaine en phase clinique avec des essais chez l'homme, 4 mois seulement après le séquençage du virus. A-t-on déjà assisté à une telle course et à une telle rapidité?
Non, je crois que c'est vraiment inédit. Malgré des accélérations très nettes qu'on a vues par exemple dans la crise Ebola, où le début de l'évaluation clinique d'un vaccin jusqu'à la démonstration de son efficacité a duré, disons, 9 mois. Mais là, c'est inédit.
Mais est-ce qu'il est possible, comment serait-il possible de faire en un an ce qui normalement en prend 10?
Bon, alors d'abord, d'un point de vue de la recherche et du développement, où il s'agit de trouver un prototype. En fait, on s'est vraiment appuyé sur ce qui avait déjà été fait par le passé sur le virus SRAS et sur le virus MERS. Le SRAS n'avait pas été poussé jusqu'au bout puisque en fait la maladie avait disparu. Le MERS, il y a des essais en cours, des essais cliniques. Donc on s'est inspiré de tout ce qu'on savait d'autres coronavirus et on a poussé tous les concepts de vaccination en même temps, le plus rapidement possible. On voit évidemment que les choses les plus faciles à réaliser au laboratoire, comme les vaccins dits à ARN, comme par exemple celui qui est poussé par la société Moderna ou CureVac ou d'autres, ont été les premiers sur la ligne de départ des essais cliniques, mais les autres suivent de façon assez rapide derrière. Alors ça, c'est pour la phase de conception. Alors après ça, la phase des essais cliniques, comment peut-on accélérer ça? Eh bien, c'est en faisant d'une part la plupart des choses en parallèle, à risque en fait, et en réduisant autant que possible les phases d'instruction des dossiers.
Pourquoi dites-vous à risque?
Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait d'abord une phase clinique appelée de phase 1 chez l'homme, qui met en œuvre un essai de vaccination chez, disons, quelques dizaines de personnes. Et puis, on regarde vraiment les résultats après un an, à la fin de l'essai. Et basé là-dessus, on dessine une phase 2 qui essaye de regarder chez plusieurs centaines de personnes quel est le palier de dose, en fait. Combien faut-il injecter du produit? Est-ce qu'il faut faire une injection, deux injections ou pas? Et cette phase 2 va durer aussi un an ou quelques. Et au bout de l'année, on regarde et on analyse, etc. Et on décide de faire une phase d'efficacité ou pas. Alors, ce qu'on fait là, c'est qu'on lance en parallèle plusieurs essais de phase 1, ou bien on fait tout de suite un essai de phase 1-2. Et déjà au bout de 3 mois, on va regarder les résultats préliminaires et on va faire un certain nombre d'hypothèses en disant, d'après ce qu'on voit sur des phases préliminaires, il semble que la meilleure quantité, c'est cette quantité et qu'on peut faire une dose ou deux doses. Et on va tout de suite démarrer sur ces hypothèses les études d'efficacité. Alors, ça veut dire qu'on peut se tromper. Et si on se trompe, eh ben, il va falloir repartir en arrière et regarder d'un peu plus près. On n'aura pas vu, par exemple, si la réponse à la vaccination est de longue durée ou pas, parce que l'étude va se continuer pendant toute une année, mais on va déjà prendre les résultats du début, de 3 mois, 2 mois, 3 mois, pour baser la suite.
Il y a plusieurs techniques à l'œuvre. L'Institut Pasteur a élaboré un candidat vaccin à partir du vaccin de la rougeole qui sert de porteur à un virus atténué. C'est la méthode classique. Mais que pensez-vous? Vous en avez parlé il y a un instant de ce que fait notamment ce laboratoire américain Moderna qui injecte un ARN, un morceau du patrimoine génétique du virus. Ça ne s'est jamais fait.
Alors, il y a eu des essais, il y a des essais cliniques, mais il y a aucun vaccin enregistré, approuvé chez l'homme qui est basé sur cette technologie. Alors pareil, c'est un saut en avant. Est-ce que ça va marcher? On va le voir, on le verra bientôt. Il semblerait que dans d'autres maladies, les essais cliniques sont prometteurs. Donc ça, c'est le premier, un vaccin basé, comme vous dites, sur le patrimoine génétique, l'ARN. Le deuxième qui est venu dans la course, en fait, c'est un vaccin basé sur de l'ADN qui doit être donné avec une petite impulsion électrique dans le bras pour que ça pénètre davantage. Et il y a des essais qui sont en cours, notamment pour la maladie du MERS, un autre coronavirus. Il faut pousser tous ces vaccins jusqu'à, comme on dit, en fait, jusqu'à ce qu'ils échouent. Ça veut dire, on espère bien sûr qu'ils vont marcher, mais tant qu'on a un espoir qui marche, il faut continuer à les pousser juste au moment où on verrait éventuellement que ça n'est pas, ce n'est pas efficace.
Et ensuite, Marie-Paul Kenny, comment on passe de la conception et de la mise au point à la fabrication à très grande échelle, à plusieurs milliards de doses pour une bonne partie de l'humanité?
Alors, ce qui se passe, c'est que d'habitude, quand on n'est pas dans la pandémie, on attend d'avoir des résultats. Et après ça, on commence à construire des usines pour faire des doses. Alors là, encore une fois, à risque, surtout poussé par les financements américains, en fait, les compagnies ont déjà commencé à mettre en place des outils de production pour des vaccins hypothétiques, alors qu'on ne sait pas encore s'ils vont marcher ou pas, de façon à ce que la production commence en même temps, en fait, que l'évaluation clinique. Toujours est-il que le jour où il y aura du vaccin disponible, ce sera vraisemblablement pas des vaccins encore enregistrés vraiment, mais qui devront être utilisés avec des dispenses, hein, pour qu'ils puissent être utilisés tout de suite, et on n'en aura pas 5 milliards. Donc ce qui doit se poser, et ça c'est un travail qui va commencer maintenant, je suis très content de voir que le président français, le président Macron et d'autres, et avec la Commission européenne, se sont mis autour de la table pour mettre de l'argent, mais aussi pour dire le vaccin doit être un bien public mondial. Et donc, il va falloir, en sachant que au début, on aura quelques millions de doses, peut-être quelques dizaines, puis quelques centaines, avant d'avoir plus. Et il s'agira de se mettre d'accord pour savoir comment vont être utilisées les premiers millions de doses.
Il faudra définir des publics prioritaires.
Alors, il faudra définir des publics prioritaires dans tous les pays. Moi, j'ai l'expérience pour la pandémie de grippe H1N1 en 2009-2010. Je travaillais à l'OMS à ce moment-là, et donc basé sur les recommandations des groupes d'experts indépendants et multinationaux de l'OMS, il fallait en toute priorité d'abord protéger les travailleurs de santé de première ligne pour que ceux-là puissent continuer à s'occuper des malades. Et donc, on avait une estimation qu'il fallait couvrir à peu près 2% de la population mondiale. Et quand vous regardez maintenant, ça pourrait faire à peu près 120 millions de doses. Alors, je sais pas du tout, ça c'était la grippe. Qu'est-ce qu'on va décider? Qu'est-ce que vont dire les experts? Que vont dire les pays eux-mêmes pour la pandémie de coronavirus? Mais on pourrait envisager, par exemple, que les 120 premiers millions de doses soient réservés à couvrir les travailleurs de première ligne en santé dans tous les pays du monde.
Vous venez de parler des financements américains. Quand le patron de Sanofi dit en substance que les Américains payent mieux, qu'ils sont plus efficaces et plus rapides que les Européens, est-ce que ça correspond à la réalité?
Alors, c'est sûr que ça correspond à la réalité du fait que les Américains, très rapidement, ont des mécanismes. Donc, ce mécanisme en particulier, c'est leur agence qui s'appelle BARDA, hein, et qui a des moyens financiers énormes, et qui est une agence qui sert à protéger les États-Unis de toutes sortes de risques. Alors, il y a le risque infectieux, mais il y a aussi le risque terroriste, le risque nucléaire, le risque chimique. Et donc, cette agence est dotée de moyens financiers énorme et donc peut être en état de mettre de l'argent sur la table très vite, quasiment sans appel d'offres en fait, hein, pas simplement par une revue qu'ils ont. Et donc les industries adorent ça parce qu'on leur donne beaucoup d'argent sans même leur demander des contreparties à part de développer des produits. Alors on voit par exemple l'argent de Barda a été utilisé pour mettre en place par exemple un vaccin à l'époque après la chute des tours au World Trade Center. Il y avait beaucoup de peur d'utilisation du charbon, hein, qui est une bactérie en Amérique comme bioterrorisme. Et donc Barda a financé énormément l'industrie pour mettre en place des outils. Et après ça, l'administration américaine les a achetés à prix d'or. Donc c'est un peu ça le problème de Barda. Et je pense qu'on discute aussi de la mise en place d'une agence équivalente en fait au niveau européen. Ça peut pas se faire au niveau français, il faut que ce soit au niveau européen. Mais ce que je souhaite, c'est que en tout cas, si on met en place ce genre d'agence, il faudra demander des retours et une redevabilité à l'industrie qui reçoit l'argent, et pas seulement recevoir l'argent pour faire des développements et après ça vendre au pouvoir public les produits qu'ils ont déjà payés une fois, une deuxième fois à prix d'or.
Oui, pas à n'importe quel prix. Merci beaucoup Marie-Paule Kenny, ancienne directrice adjointe de l'OMS et membre du CAR, l'un des deux conseils du gouvernement. Merci à vous.
Je vous en prie.
Europe 1.
Dans un instant, Stanislas Dehaene, le président du conseil scientifique de l'éducation nationale, les premiers jours d'école d'après confinement et l'opportunité d'inventer de nouveaux modes d'apprentissage. A tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous écoutez C'est arrivé cette semaine avec Patrick Cohen.
Bonjour Stanislas Dehaene.
Bonjour Patrick Cohen.
Chercheur en neurosciences cognitives, professeur au Collège de France et président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Pour ce retour à l'école cette semaine, retour encore très partiel, est-ce que vous avez une idée sur qui est rentré, qui est resté à la maison, qui a disparu et quels sont les dégâts provoqués par ces deux mois d'arrêt ?
Alors moi j'ai pas beaucoup de chiffres encore sur le nombre d'enfants qui sont rentrés. On sait que c'est surtout les petits qui sont rentrés et que la semaine prochaine ça va être les 6e et les 5e avec une rentrée partielle. Hein. Moi je travaille au niveau du conseil scientifique pour essayer de proposer des solutions, des aides pour les enseignants et effectivement aussi des mesures, des conséquences. Nous avons écrit un document au conseil scientifique pour faire un certain nombre de recommandations pédagogiques mais aussi de recommandations scientifiques pour pouvoir mieux mesurer ce qui s'est passé pendant ces deux mois et quelles en sont les conséquences pour les enfants. Conséquences, je dois dire tout de suite, qui peuvent être positives, hein, aussi bien que négatives. En tout cas, les conséquences sur l'institution me paraissent potentiellement extrêmement positives, parce que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu une mobilisation absolument extraordinaire de l'immense majorité des acteurs, un petit peu dans l'esprit de Kennedy, hein, ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. Je crois qu'on a vu ça, et on a eu donc, pas seulement au niveau de l'éducation nationale d'ailleurs, dans lesquels il y a de nombreux acteurs du numérique, par exemple Canopé, CNED, etc., mais on a eu aussi une mobilisation de la télévision, on a eu une mobilisation des radios pour les enfants du pays. Et c'est une mobilisation que nous, au Conseil scientifique, on appelait de nos voeux depuis très longtemps, bien avant le Covid.
On va parler du positif et de ce que les outils numériques peuvent apporter encore davantage à l'avenir à l'école. Mais vous dites, Stanislas Dehaene, que chaque semaine passée loin de l'école aggrave les inégalités et une forme de reproduction sociale.
Ben c'est le principal problème que l'on craint. Hein. Même si on n'a pas de chiffres précis pour les deux derniers mois, on sait dans la littérature scientifique qu'à chaque fois qu'il y a déscolarisation, il y a de graves conséquences cognitives. Alors ça peut être vrai, par exemple, simplement pendant les vacances scolaires. Et ça, c'est assez bien connu. Je ne veux pas faire un parallèle direct, parce que là, c'est pas vraiment des vacances, bien entendu. Il y a eu poursuite de l'enseignement pour beaucoup d'enfants. Mais enfin, il y a quand même eu quelques enfants, peut-être, on estime, de l'ordre de 5%, qui ont été complètement déconnectés. Et alors cela... si on fait le parallèle avec l'effet des vacances scolaires, on sait que ça aggrave les inégalités. C'est-à-dire que pendant les périodes de vacances scolaires, les inégalités qui s'étaient réduites pendant l'année, hein, ça c'est très intéressant parce que on sait par des études longitudinales que l'école réduit les inégalités pendant l'année, mais au cours des vacances, ces inégalités augmentent à nouveau de façon massive. Sans doute parce qu'il n'y a pas poursuite de l'apprentissage. Et vous savez que pour le cerveau en développement, l'apprentissage c'est vraiment 7 jours sur 7, je dirais 24 heures sur 24, parce que aussi bien le jour que la nuit, le cerveau consolide ses apprentissages.
Ouais, donc, beaucoup se sont demandé Beaucoup se sont demandé pourquoi on faisait rentrer les plus petits en premier. Vous dites que ce sont les années décisives, celles qui comptent le plus pour le développement de l'enfant.
Oui, alors ça c'est le deuxième point, c'est que ces effets sont cumulatifs. Et donc, les années les plus précoces comptent le plus. La scolarisation en maternelle a un effet cumulatif sur la lecture, sur les maths, et à la fin, sur l'illettrisme ou sur la sortie sans diplôme. Donc, effectivement, c'est une bonne décision, je pense, de faire rentrer en premier les petits, et surtout ceux de zones défavorisées.
Alors, vous le soulignez tout à l'heure, pour une grande majorité d'enfants, il n'y a pas eu de déconnexion. Les outils numériques ont permis de maintenir le lien, parfois avec profit, avec une dimension ludique et personnalisée, peut-être moins présente en classe. Ça peut servir de leçon pour la suite ?
Ah, je l'espère beaucoup. L'intérêt des outils numériques est potentiellement multiple. C'est de compléter l'enseignement qui est donné en classe, mais c'est aussi d'apprendre aux élèves que apprendre c'est amusant, qu'on peut apprendre en autonomie, ce qu'on appelle en sciences cognitives l'autorégulation, c'est-à-dire qu'on déclenche soi-même son propre apprentissage, on est curieux, on va chercher les informations. Et puis, ça permet de proposer une pédagogie qui peut être en complément de celle de l'école et qui est très personnalisée. Et ceci aussi pour 100% des enfants. Ça, c'est très important, parce que dans une classe, il y a souvent quelques enfants qui rêvent, qui décrochent, qui ne sont pas interrogés à un instant donné. L'intérêt du numérique, c'est qu'on est 100% mobilisé face à un écran ou une tablette.
Mais pas l'ordinateur à la place du professeur.
Non, alors il ne s'agit pas du tout de ça. Tout le monde sait, et le conseil scientifique l'a souligné, que les outils numériques ne remplacent pas l'interaction humaine. Le cerveau humain a besoin de contact humain. C'est même essentiel chez les petits. Et c'est comme ça qu'on apprend quand on est petit. Mais il peut y avoir un complément. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ce complément engage les familles et il engage l'enfant potentiellement 7 jours sur 7. Si le logiciel est bien fait, si c'est un jeu, si c'est amusant, l'enfant a envie d'y aller. Et s'il y va un petit peu tous les jours, vous savez, c'est un petit peu comme l'apprentissage de la musique. Certains apprentissages, celui de la lecture, celui du calcul, il y a un aspect de consolidation jour après jour. Donc l'enfant qui a commencé à apprendre à lire, par exemple, ce qui va lui permettre d'aller au-delà dans son apprentissage de la lecture, c'est tout simplement la lecture elle-même. C'est le fait de lire des livres tous les jours. Exactement comme quand on apprend du violon, c'est le fait de pratiquer son violon tous les jours qui va faire progresser. Alors les logiciels permettent cela, bien plus que l'école qui évidemment est limitée en moyens et en temps.
Si je comprends bien, moins de cours magistrales et plus d'aller-retour entre des exercices numériques et des accompagnements individuels, c'est ça ?
Alors ça, c'est une recommandation pédagogique plus générale, qui ne s'applique pas nécessairement qu'au numérique. C'est une découverte des sciences cognitives, c'est qu'il vaut mieux éviter le cours magistral très long et faire des alternances de périodes d'enseignement et de périodes de test. Et c'est comme ça qu'on apprend le mieux, même si le test prend un petit peu de temps. En fait, le test est une période d'apprentissage. C'est pas juste une mesure des performances des enfants. C'est une manière pour l'enfant lui-même de développer sa métacognition, c'est-à-dire savoir ce qu'il ne sait pas, se rendre compte qu'il n'a pas suffisamment étudié ou que simplement étudier en rêvassant devant le livre, ça ne suffit pas. C'est au moment du test qu'on se rend compte qu'on met à l'épreuve ses connaissances et ensuite on retourne à l'enseignement avec une approche un petit peu différente. On insiste beaucoup sur cet aspect d'autorégulation. Vous voyez, l'enfant qui est lui-même motivé, qui développe son attention, éviter la distraction, mobiliser toute la concentration, ce qu'on appelle l'engagement actif, et s'évaluer régulièrement avec, et ça c'est aussi un point intéressant qui existe dans le logiciel mais qui devrait exister à l'école en général, décomplexer l'erreur. C'est tout à fait normal de faire des erreurs. Si vous apprenez la musique, c'est évident. Jamais vous n'arriverez à jouer ce morceau de Mozart dont vous rêvez du premier coup. Vous allez faire des erreurs, mais vous apprenez de vos erreurs. Il faut arriver à valoriser l'erreur, se rendre compte que l'erreur a un statut positif, c'est une opportunité d'apprendre.
Stanislas Dehaene, président du conseil scientifique de l'éducation, poursuit cet entretien passionnant dans un instant, après une pause.
Europe 1. Comme tous les samedis, de 9h à 10h, vous êtes avec Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine.
Avec Stanislas Dehaene, spécialiste du cerveau, président du conseil scientifique de l'éducation nationale. Peut-être avez-vous vu le dossier de une de journal Libération ce matin sur les enfants qui paraissent moins traumatisés, moins angoissés que leurs parents sur ces deux mois de crise, impression rapportée par de nombreux profs cette semaine, qui soulignent la capacité d'adaptation des plus petits à se plier à de nouvelles règles. C'est normal, Stanislas Dehaene, c'est le propre des enfants.
Oui, ça m'étonne pas du tout. Vous savez, pour les enfants, chaque jour est un jour nouveau. Et effectivement, ils peuvent s'adapter. Souvent, ce sont les adultes qui projettent sur les enfants des peurs. On a vu, par exemple, c'est malheureusement presque fake news, des photos qui étaient isolées, des enfants qui étaient isolés dans des cours d'école. Photos qui ne rendaient pas compte du fait que ces enfants étaient en train de jouer. On peut tout à fait jouer tout en gardant une distance. Il y a sur le réseau social des enseignants, il y a de très jolies propositions de jeux, par exemple de jouer en miroir. Et le fait de, c'est-à-dire d'adopter la posture de quelqu'un d'autre en miroir tout en restant à distance. Et le fait d'être à distance peut faire partie du jeu, peut faire partie de la règle du jeu, vous voyez. Donc ça, les enfants sont très créatifs de ce côté-là. Et de manière générale, il y a un virus qui court dans notre école, et ça date pas d'il y a 3 mois, c'est le virus du pessimisme. Et on le sait, malheureusement, l'école française est un peu spécialiste de ce virus-là. C'est-à-dire penser que les choses vont aller mal, et malheureusement, la science montre que ça a un effet auto-prédictif. C'est-à-dire que si les enfants ont un esprit positif, ils apprennent mieux et les choses vont mieux. Mais donc il faut absolument qu'on arrive à adopter cet esprit positif, cet état d'esprit positif que la chercheuse américaine Carol Dweck a démontré, avoir un effet important sur les enfants.
Oui, mais il y a du travail. Est-ce qu'il faut leur parler aux enfants du Covid en classe? Est-ce que cette épidémie qui est en train de changer nos vies doit être abordée à l'école sous différents aspects?
Alors, au Conseil scientifique, on pense que oui, que évidemment, ça a été un questionnement important et peut-être pour les enfants un peu plus âgés, une source d'angoisse quand même, hein, et surtout une source de nombreuses informations dont certaines à nouveau sont fausses. Donc, la première recommandation du document du Conseil scientifique, ça a été d'aider les élèves à comprendre et prévenir l'épidémie. On renvoie d'ailleurs vers le site de La Main à la Pâte, qui est extrêmement bien fait pour fournir des outils aux enseignants pour enseigner les différents aspects de l'épidémie. Les enfants peuvent comprendre ce qu'est un virus, comprendre aussi ce que c'est qu'une épidémie, comment ça se propage, pourquoi les gestes qu'on leur fait faire ne sont pas juste des rituels comme à la messe, mais sont en réalité des gestes utiles pour prévenir l'épidémie. Et puis, au passage, l'ensemble des disciplines scolaires peuvent être mobilisées. Par exemple, on a vu énormément de graphes mathématiques. Ça ne va pas de soi de comprendre un graphe mathématique. Je ne sais pas si vous avez vu sur Fox News, il y avait un graphe où l'échelle logarithmique était particulièrement mal comprise. Il y a vraiment une fonction d'éducation, là, qui peut être faite autour de cette question de l'épidémie.
La démarche scientifique aussi, non ?
Mais bien sûr, alors l'esprit critique, c'est un aspect
l'esprit
très intéressant.
Critique, oui.
Comment savoir si une information qu'on me donne est juste ou est fausse ? Alors, sur le virus, je ne peux pas vraiment expérimenter, mais dans d'autres domaines, c'est encore l'action de la main à la pâte. On peut expérimenter soi-même, faire des découvertes, s'apercevoir que... il faut faire attention, parce que on sait en sciences cognitives qu'il ne faut pas laisser l'enfant tout découvrir lui-même. Ça ne marche pas. Il faut donc des activités qui sont guidées, très soigneusement par l'enseignant, pour aller vers la compréhension d'un objet, d'un concept qui doit être enseigné. Et c'est le moment donc pour les enseignants de bien réfléchir, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, le temps est un peu perturbé à l'école, quels sont les concepts vraiment fondamentaux qu'on veut que l'enfant maîtrise à la fin de l'année.
Vous avez cité, la main à la... Oui, pardon.
Pardon, on est à distance. Là, je pensais à un concept le plus fondamental des mathématiques, c'est la relation entre les nombres et l'espace, qui est évidemment en jeu lorsqu'on comprend un graphe mathématique. Une distance sur le graphe, c'est un nombre. Ça va pas de soi, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental pour toutes les mathématiques, donc profitons-en pour l'expliquer.
Vous avez cité la main à la pâte il y a un instant. C'est vrai que les enfants qui s'intéressent aux sciences ou à la médecine éventuellement vont trouver ce qu'ils cherchent souvent sur Internet. Il y a des youtubeurs talentueux, les vidéos de Jamy Gourmaud, tout ça, c'est un complément utile à l'école. On ne trouve pas ça forcément dans les enseignements classiques.
Mais bien sûr, mais l'enseignement classique pourrait s'en inspirer, hein. Il y a des profs stars dans ce domaine qui sont vraiment remarquables. Et de fait, ça rend les enfants un petit peu plus exigeants, je pense, vis-à-vis de l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école. Mais rien n'empêche de projeter une vidéo de 5 minutes en classe avant de démarrer un cours pour motiver les enfants. Donc il y a toutes sortes de nouveaux modes d'enseignement qui sont expérimentés en ce moment par les enseignants. Moi, je vois une créativité absolument extraordinaire des enseignants en ce moment. C'est remarquable. Et je pense que si on tire les leçons de cette période, on va sortir vers le haut avec une école qui sera aussi plus bienveillante. C'est un des problèmes de l'école française. Les enfants n'ont pas tellement envie d'aller à l'école. En tout cas, ils sentent que c'est pas pour eux, que les enseignants ne sont pas vraiment là pour les aider. Je dis pas que c'est de la généralité, mais par rapport à d'autres pays européens, on est plutôt moins bien que les autres dans ce domaine. Alors, c'est l'occasion là de rendre l'école plus sympathique.
Et dès les prochains mois, est-ce que ça peut se prolonger pendant l'été, parce que les grandes vacances arrivent et elles arrivent assez vite, Stanislas Dehaene?
Ah oui, c'est très important. Et là encore, il faut se mobiliser. Hein. J'ai lu qu'on avait beaucoup moins de colonies de vacances qu'il y a seulement 10 ans ou 20 ans.
Oui.
C'est absolument fondamental de prolonger les apprentissages pendant l'été. Le cerveau de l'enfant a vraiment besoin d'être nourri tous les jours de choses nouvelles, curieuses, bizarres, de constructions. J'aime bien cette phrase qui dit « il faut faire pour apprendre ». C'est un peu l'esprit des compagnons du devoir. Il faut avoir un projet. Et les colonies de vacances peuvent être cette occasion de créer en une semaine un vrai projet, construire une voiture radiocommandée. Ça demande un tout petit peu de moyens quand même. Donc il faut que les communautés de communes, les écoles se mobilisent parce qu'elles ont des moyens et souvent ils dorment pendant l'été, pendant 2 mois, alors qu'ils pourraient être mobilisés pour les enseignants, pour les enfants en difficulté.
Parmi vos propositions, vous suggérez une sorte de Netflix des exercices pédagogiques. Que voulez-vous dire ?
Le problème qu'ont les enseignants, c'est que, comme vous l'avez dit, l'offre est absolument pléthorique. Donc, ce qu'on a proposé, c'est l'idée d'avoir un système centralisé, qui commence d'ailleurs à être mis en place par le système Canopé, la Canothèque de l'Éducation nationale. Vous pouvez aller voir ce terme sur Internet. C'est-à-dire un système où les enseignants pourraient aller chercher, en fonction du niveau de la classe, et pas seulement les enseignants, d'ailleurs les parents aussi, des exercices, des cours, avec un système de notation qui ferait que, comme sur Netflix, mais de façon gratuite bien sûr, on verrait quels ont été les cours qui sont les mieux notés, à la fois par les enseignants et peut-être aussi par les chercheurs, pour leur qualité pédagogique et pour leur qualité intellectuelle. Oui. En tout cas, un système de partage gratuit entre enseignants. Alors, différentes académies ont leur propre système, mais je pense qu'on peut faire mieux en termes de centralisation et de partage.
Un dernier mot, il y aura des enquêtes, j'ai vu que vous les souhaitiez, il y aura des enquêtes sur l'impact du confinement et du déconfinement à la rentrée sur les élèves en maternelle et primaire.
On est en train de voir ça avec le département de statistiques, la DEP de l'Éducation nationale, qui est là encore vraiment un système absolument remarquable. Vous savez que chaque année, tous les enfants de France en CP, en CE1, en 6e et je crois en seconde sont testés, avec des tests très simples, mais qui permettent de voir où ils en sont dans les fondamentaux. Ce qui fait qu'on voit à l'avance, par exemple, les problèmes de résolution de problèmes mathématiques qui sont vus ensuite dans les enquêtes PISA lorsque les enfants ont 15 ans. Donc on a des capacités de mesure et bien sûr ça aide à intervenir et nous appelons à un couplage entre la mesure et l'intervention qui est donnée aux élèves.
On verra cela et puis retour lundi pour les élèves de collège de 6e et de 5e en zone verte. Merci beaucoup Stanislas Dehaene, président du Conseil scientifique de l'Éducation nationale. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Dans un instant, une prof de philo qui fait un sort au débat, tribune et pétition sur le monde d'après. Marilyn Maizeau nous appelle à nous méfier des prophètes et des récupérations idéologiques dans un texte stimulant. À tout de suite.
Europe 1. Jusqu'à 10h, vous retrouvez Patrick Cohen pour cette arrivée cette semaine sur Europe 1.
Bonjour Marilyn Maizeau.
Bonjour.
Professeur de philosophie, spécialiste de Camus, vous venez de publier à l'Observatoire les lents demains qui chantent. Lents demains en deux mots pour évoquer tous ceux qui phosphore sur ce monde de demain qui n'aurait plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. C'est une illusion ?
C'est surtout une illusion qui est récurrente puisque cette litanie du « plus jamais ça », après une crise aussi terrible, plus rien ne peut être comme avant, elle revient systématiquement en période de crise et à chaque fois le monde d'avant reprend ses droits.
C'est une règle générale, immuable. Parler du monde d'après, ça vous paraît ridicule ?
Ça ne me paraît pas ridicule. Je ne suis pas dans la posture de la dénonciation, de l'indignation ou même de la moquerie, pas du tout. J'essaye de comprendre, en l'occurrence, si vous voulez, cette posture, elle est compréhensible, j'insiste dessus dans mon texte. C'est normal, quand on vit une situation difficile, d'une part d'imaginer la sortie, parce que ça aide à tenir, et d'autre part de se dire qu'on n'a pas pu souffrir à ce point pour continuer de la même manière, qu'il faut presque en un sens une récompense pour compenser tous les sacrifices qu'on a dû faire. D'où l'imagination d'un monde d'après qui finalement résoudrait les problèmes qu'on a pu rencontrer pendant la crise.
Ce que vous remarquez, c'est que dans ce prétendu monde d'après, chacun y trouve ce qu'il souhaite trouver ?
C'est le principe de la prophétie. On peut penser par exemple à l'oracle de Delphes. Le propre d'une prophétie, c'est d'être suffisamment flou pour permettre à n'importe qui de se greffer dessus, ou plutôt d'y greffer sa propre vision du monde, ou son propre, en l'occurrence, agenda politique ou idéologique. Le principe, c'est que le coronavirus étant une crise liée à un virus qu'on connaît mal, dont les sources, quoi qu'on en dise, sont encore obscures, ça permet à chacun de pointer le coupable idéal de manière à vendre sa solution. solution. Si on dit que le coupable, c'est le capitalisme, on va pouvoir du coup vendre une sortie du capitalisme comme solution. Si on dit que le coupable, ce sont les grands lobbies pharmaceutiques ou le système, on va pouvoir vendre une solution anti-système. En fait, ça marche absolument dans n'importe quelle configuration.
Le virus est récupéré par toutes les idéologies, écrivez-vous, alors que ce virus est un fait brut, insensé et réfractaire à toutes nos tentatives d'explication simpliste ou théologique.
Oui, parce que, en fait, c'est le propre de, je pense, de la nature humaine que de se prendre un peu pour Dieu parfois, d'avoir cette espèce de complexe du démiurge qui considère qu'on est capable de tout comprendre, de tout expliquer et que, de ce point de vue-là, finalement, rien ne nous échappe ou il n'y a pas d'inconnu. En réalité, ce que cette épidémie nous rappelle, comme toutes les épidémies, en fait, puisqu'on a eu d'autres avant, hein, c'est que non, on ne sait pas tout, que non, on ne peut pas tout prévoir et qu'on ne peut pas tout contrôler. Or, forcément, vous admettrez que c'est pas facile à accepter, hein, cette situation de dénuement et d'impuissance. Et donc, le fait de créer un scénario fictif où on imagine la source, où on imagine la solution, où finalement tout est encadré, tout fait sens, c'est une manière de se rassurer.
Ça n'empêche pas de, Marilyn Maïsseau, de tirer des leçons politiques, économiques, sanitaires de cette crise.
Absolument pas, mais il y a une différence entre tirer des leçons et prédire ou promettre. Tirer des leçons, ça consiste à observer, et l'observation prend du temps. Si vous voulez, pour moi, le fait de tirer des leçons, c'est totalement incompatible avec la démarche actuelle qui consiste à proposer des solutions miracles toutes faites, alors que on est encore dans cette crise, on n'en est pas sorti. C'est pas parce que le déconfinement a commencé que d'un seul coup, on a tout cerné, on a tout compris, le virus est enrayé et on a trouvé le vaccin ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est pas encore arrivé. Donc je pense que pour vraiment tirer les leçons du passé, il faut laisser le passé passer, il faut prendre le temps de l'observer et surtout, il faut être modeste au sens camusien du terme, c'est-à-dire être capable de proposer des solutions qui sont réalisables, réalistes, et donc forcément des solutions qui sont ponctuelles. On peut pas, si vous voulez, changer tout un système en un claquement de doigts. Ce qu'on peut faire, c'est injecter, comme dit Camus, les quelques nuances qui rendront le monde moins insupportable. Mais ça, forcément, c'est moins vendeur que de faire, par exemple, comme l'a fait Nicolas Hulot, une tribune avec 100 grands principes où il y a cette espèce de, si vous voulez, de pensée magique qui consiste à dire le temps est venu, comme si finalement, le fait de le répéter 100 fois, ça allait avoir une puissance effective.
Modeste plutôt que utopique, vous ne croyez pas à la force des utopies ?
En fait, quand je dis que je ne crois pas à la force des utopies, c'est pas au sens où je ne crois pas à leur utilité. Les utopies ont une utilité, elles existent, hein, depuis des siècles, avec d'abord bien sûr l'utopie de Thomas More. L'utopie, sa fonction, ou plutôt l'une de ses fonctions, c'est de créer un système qui est fictif, mais qui se reconnaît comme fictif, qui prétend pas avoir une valeur prédictive, mais de manière à mettre en évidence, par contraste, les défauts du système dans lequel on vit. Quand on crée une utopie, c'est une manière de montrer, regardez comment ça fonctionnerait dans un monde idéal, comme ça vous comprendrez ce qui va pas dans l'autre. Ça veut pas dire qu'on va pouvoir créer l'utopie ou réaliser l'utopie, mais c'est une façon, si vous voulez, de fonctionner comme un miroir inversé pour prendre conscience de ce qui ne va pas et pour essayer d'améliorer dans la mesure du possible. Là où je dis que je ne crois pas à la force des utopies, c'est quand justement on passe de cette logique qui consiste à imaginer comment le monde pourrait aller mieux, et donc de chercher des solutions qui sont du domaine du réalisable, on passe de ça à on va renverser le système et établir la cité idéale. Si vous voulez, ça c'est ce qu'on trouve au fondement de toute idéologie révolutionnaire. Or, ce que l'histoire nous a montré jusqu'à présent, c'est que systématiquement, les idéologies révolutionnaires promettaient un monde idéal, un monde utopique, et que ce qui s'est produit, c'est le retour du monde d'avant, avec parfois l'accentuation des oppressions, des formes de gouvernement tyrannique ou même des inégalités, et tout ça pour finalement au cours de l'histoire arriver, comme le disait Camus, à quelques nuances, mais qui n'avaient rien de révolutionnaire.
Il faut, et pas seulement en temps de crise, se méfier et se défier des prophètes.
Oui, parce que les prophètes, comme on a pu le voir effectivement au fil de l'histoire, ce sont des marchands, si vous voulez, des marchands de promesses, des marchands d'espoir. Or, et là aussi Camus l'avait très bien vu, dans un très beau texte de Noce, il explique que si les Grecs ont fait sortir de la boîte de Pandore l'espoir en dernier, ça n'est pas un hasard, c'est parce que l'espoir, c'est le pire des fléaux. Parce que, comme il l'explique, l'espoir, ça consiste à se résigner, et vivre, c'est ne pas se résigner. Pourquoi ? Parce que l'espoir, le fait d'espérer en un monde meilleur, un monde qui serait parfait, bah, c'est une façon d'espérer dans l'autre. Et donc, de trouver des raisons, finalement, de ne pas se retrousser les manches pour pouvoir agir concrètement et faire des différences, certes, mineures par rapport à ce qu'on voudrait, mais néanmoins réelles. Les prophètes, en fait, ils instrumentalisent cette volonté révolutionnaire, cette volonté de tout changer, mais toujours en nous faisant des chèques en blanc, c'est-à-dire en partant du principe que, de toute façon, le propre de la prophétie, c'est que elle est en point de fuite. Hein. On dit toujours que la révolution aura lieu ou que le changement aura lieu ou qu'il y aura le retour du Christ sur terre, pour reprendre la prophétie la plus connue, mais jamais avec une date précise, parce que si vous voulez, le propre de la prophétie, c'est d'être insaisissable dans le temps.
Marilyn Maizo, professeure de philosophie, vous restez avec nous. On va parler de Didier Raoult, du phénomène Raoult, avec vous dans un instant.
Europe 1. On vous retrouve, Patrick Cohen, comme chaque samedi, pour C'est arrivé cette semaine sur Europe 1.
Avec Marilyn Maizo, qui vient de publier Les lents demains qui chantent à l'Observatoire, vous nous parliez d'espoir et de prophétie il y a un instant. Didier Raoult, à vos yeux, c'est un prophète, un scientifique dissident ou un gourou ?
Didier Raoult, c'est un professeur, c'est un virologue, et la question que j'ai voulu poser, c'est comment il a agi. Il y a une différence entre ce qu'il est et comment il a agi. Il a beau être virologue, à mon sens, il n'a pas agi en tant que virologue, il n'a pas agi en tant que médecin dans cette crise, parce que il a vraiment rejoué le scénario complot compatible du renégat qui est seul contre un système qui voudrait cacher la vérité pour l'empêcher de vaincre le mal. Faut reprendre ici le raisonnement récurrent de ses soutiens. Le raisonnement est le suivant: son traitement marche, il l'a prouvé, son traitement ne coûte pas cher, alors pourquoi ne pas le prescrire en masse? Il n'y a qu'une réponse possible, il y a forcément une mauvaise intention cachée derrière. C'est parce que ça ne sert pas les grands intérêts des groupes pharmaceutiques, ni ceux de l'État, ni ceux de la communauté scientifique, qui utiliserait, comme il l'a dit lui-même, l'excuse des scrupules méthodologiques pour lui mettre des bâtons dans les roues. Si vous voulez, c'est pas pour rien que ce scénario qu'il a, avec lequel il a joué de manière, à mon avis, intentionnelle, parce que c'est quelqu'un de très intelligent, a séduit très fortement les populistes. On peut penser à Jean-Luc Mélenchon qui l'a soutenu, ou encore Marine Le Pen, qui en a profité pour discréditer le Conseil scientifique. Les populistes, en fait, ont eu beau jeu de l'instrumentaliser pour en faire le symbole d'un peuple en révolte contre le système et les élites corrompues. Le scénario classique au fondement de toutes les théories complotistes. Je voudrais quand même rappeler que Didier Raoult, dans un sondage de fin mars, un sondage Odoxa, il a compté parmi les personnalités politiques préférées des Français sondés. Personnalités politiques. On peut pas être à la fois un savant et un politique, comme dirait Max Weber. Ce sont deux attitudes qui sont différentes, qui obéissent à des règles et à des buts distincts. À partir du moment où on essaye de les mélanger, ça donne le genre de cacophonie qu'on a pu voir avec le buzz Raoult.
Vous voulez dire que Raoult a canalisé, accéléré la propagation des théories du complot qui prospèrent sur les réseaux sociaux ?
Bien sûr, puisque le complotisme, c'est un fléau qui prolifère dans des situations de crise. Pour une raison très simple, c'est que il se nourrit des peurs, des inquiétudes, et aussi, faut pas l'oublier, du désir de trouver des coupables aux problèmes qu'on subit. De ce point de vue-là, la crise du Covid-19, c'est vraiment le terreau idéal pour ça. Et on a vu des théories du complot fumeuses qui ont été diffusées, celle de l'instagrammeuse Kim Glow qui expliquait que le Covid avait été créé en laboratoire pour tuer les plus faibles et alléger les caisses de retraite. Juliette Binoche qui a expliqué que c'était un complot pour faire en sorte, pour permettre à Bill Gates de nous insérer des puces sous-cutanées. Tout ça sont des théories, si vous voulez, terrifiantes qui sont florissantes dans un contexte où les gens panique, où ils ont peur de tomber malade, de mourir. Et le principe d'une infection, c'est justement de créer cette peur. Leur force, bien sûr, c'est qu'elles sont infalsifiables, puisque le simple fait, et j'en ai fait les frais comme beaucoup, de vouloir démontrer leur fausseté vous range dans le camp des agents du système qui cherchent justement à dédouaner les gens qui veulent vous éclairer. On pourra dire que Raoult n'est pas rentré là-dedans, que Raoult est un scientifique et qu'il n'a pas joué ce jeu-là. Faut quand même pas oublier qu'il a fait des choix en connaissance de cause. Je n'en prendrai qu'un exemple. Le choix, par exemple, de livrer en amont de toute publication scientifique les résultats de son étude à un avocat américain qui s'appelle Rigano et un ophtalmologiste qui s'appelle Todaro, qui l'ont diffusé sur des chaînes américaines. Ça a fait un buzz monumental. Trump s'en est saisi. Et Raoult a beaucoup joué, notamment sur YouTube, sur cette communication par le buzz qui parasite le travail rigoureux des scientifiques et qui sème la confusion dans les esprits. Parce qu'il faut quand même pas oublier que le but ici, c'est moins d'informer, puisqu'il s'agit moins d'informer, que de gagner une sorte de bataille de la visibilité, quitte à désinformer dans le processus.
C'est bien résumé aussi dans un récent papier du New York Times, très complet sur Didier Raoult. Je rappelais, Marilyn Maizeau, que vous étiez une spécialiste et une admiratrice d'Albert Camus. Vous l'avez cité à plusieurs reprises. Qu'est-ce que la lecture et la pensée de Camus peuvent encore nous apprendre dans cette crise ?
Bien, tout d'abord, ce que Camus nous apprend, c'est quelque chose que la philosophie n'a cessé de nous apprendre. Et puisqu'on parlait de Raoult, ça permet de faire le lien. Raoult aurait tout intérêt à lire ou à relire Camus, parce que lui-même se targuait dans ses interventions d'être philosophe ou de vouloir faire renouer la science avec la philosophie. Or, il semble avoir oublié l'enseignement principal de la philosophie, à savoir le sens de la modestie et la capacité à reconnaître son ignorance. Lorsque Raoult fait des déclarations qui sont spectaculaires en disant Covid-19, fin de partie, ça y est, on a trouvé la solution, mon traitement fonctionne, etc., il fait totalement abstraction de l'incertitude qui continue à peser sur la situation et sur ce que ce virus peut faire et sur la manière dont on peut le soigner. Tout ça, si vous voulez, ce sont une volonté de tout contrôler et d'écarter finalement l'incertitude et l'ignorance qui vont à l'encontre de ce que les philosophes en général et Camus notamment nous enseignent. D'autre part, et je pense que c'est important, Camus est aussi quelqu'un qui insistait sur l'importance de se méfier de la polémique, puisque la crise du Covid-19, c'est aussi une crise de l'information, comme toutes les crises à l'heure des réseaux sociaux et de l'hyperconnectivité. Les gens, bien sûr, qui sont inquiets, cherchent à s'informer et automatiquement, ils sont pris dans la multiplication des polémiques, dans le fait que ceux qui s'expriment ne sont pas forcément les plus informés, ni les plus nuancés, ni les mieux intentionnés. Et Camus insistait en disant que le mécanisme de la polémique, ça consiste à supprimer l'adversaire et par conséquent à refuser de le voir. Raoult fait ça lorsque, plutôt que d'écouter les critiques qui ont été faites sur ses études, a dit que ses détracteurs, en l'occurrence ses collègues, étaient des enfants qui voulaient juste pas comprendre qu'il avait raison. Là, on est dans un registre qui est le registre de la polémique, qui va à l'encontre de tout débat scientifique sain et qui ne peut que nous faire, non pas comme on le dit, avancer plus vite dans la victoire contre le coronavirus, mais nous faire des erreurs qui peuvent se montrer mortelles.
Merci beaucoup Marilyn Maizeau, les lendemains qui chantent, votre texte aux éditions de l'Observatoire. Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1.
Et merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 9h comme chaque samedi, juste après les infos de 10h. Mediapolis, bonjour Olivier Duhamel. Olivier
Duhamel qui arrive tout de suite, qui va brancher son casque, Patrick.
Eh ben voilà, Justine,
même
merci d'avoir fait le...
Je peux vous dire qu'on va avoir un formidable Mediapolis comme d'habitude, parce qu'on va faire le tour de l'Europe et même un petit saut aux États-Unis. À tout de suite, ça va être génial.
Oui, vous l'avez préparé jusqu'à la dernière seconde. Merci, bonne journée à l'écoute d'Europe 1.